Radio Okapi. À la présentation du journal, Billy Ivan Lutumba.
Nous parlons rentrée judiciaire avec la Cour de cassation qui reprend le service ce lundi pour l'exercice 2023-2024. Cette rentrée s'est effectuée sous le thème « Les obstacles à la justice, facteur du sous-développement ». Après avoir découvert le système d'irrigation pratiqué dans la ferme privée agropastorale MKM, Mike Kasenga Moulenga dans la commune urbano-rurale de Maluku, José Mpanda, ministre congolais de l'agriculture, le conseille à tout opérateur agricole en RDC. Vous le suivez tout de suite dans ce journal. Docteur Claude Bayiziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, est celui que nous recevons comme invité. Il répond à des questions portant sur l'apparition de la maladie de variole de singe ou monkeypox dans la province du Sud Kivu. Tout de suite, nous vous déroulons les autres aspects de l'actualité congolaise. Fidèles auditeurs, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Comme dit, la Cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2023-2024. Elle a fait sa rentrée judiciaire ce lundi au Palais du Peuple sous le thème « Les obstacles à la justice, facteur du sous-développement », thème développé par le premier président de cette Cour, en plus de la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation et du plaidoyer fait par le bâtonnier national en faveur de la retraite des magistrats. C'était en présence du président de la République et de plusieurs personnalités et chefs des corps constitués. Le point avec vous, Jeff Ngoemlund.
Il ne peut y avoir justice de qualité lorsque les moyens de son fonctionnement sont dérisoires, car la misère rend la justice incapable d'assurer au droit la place qui lui revient dans une société développée, au sein de laquelle elle joue un rôle de régulation majeure, dit Élie Léon Ndomba, premier président de la Cour de cassation. À travers son discours, il démontre que la qualité de la justice d'un pays est un indicateur de son degré de développement. Malheureusement, en RDC, cette justice rencontre plusieurs obstacles, notamment la corruption, l'indiscipline et des magistrats, le trafic d'influence, le manque de sanctions. Un seul doigt ne pouvant pas laver la figure, Léon Ndomba sollicite ainsi l'implication effective des autres pouvoirs, d'abord le législatif pour des réformes des textes légaux et la matérialisation de l'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire, puis l'exécutif pour disponibiliser les moyens financiers. Dans sa mercuriale, Firmin Von de procureur général près cette cour parle du trafic d'influence en droit positif congolais. La justice, dit-il, doit être au-dessus de toutes sortes de pression pour dire le droit en toute impartialité et indépendance. C'est le contraire avec la justice de la RDC qui subit les influences de tous bords.
Dans le Nord Kivu, la cité de Kichanga dans le territoire de Masisi s'est réveillée sous une accalmie relative ce lundi. Ceci après des violents combats jusque tard dans l'après-midi d'hier dimanche entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux dans les environs de cette entité. La société civile de Masisi déplore les conséquences humanitaires qu'entraînent ces combats dans la région. Bernardin Nyangi nous en parle.
Malgré cet accalmie précaire, une forte tension est perceptible dans la cité de Kichanga, avec des habitants traumatisés après plusieurs mouvements de déplacement-retour, fait constater le rapporteur général de la société civile et du territoire de Masisi. Télésphore Mitondeke précise tout de même que les habitants qui fouillaient ce combat autour de la base du casque bleu de la MONUSCO à Kichanga ont pu retourner dans leurs biens dans la soirée hier. Plusieurs autres restent en déplacement vers Mweso. Rappelons que c'est entre 2h du matin et 16h locales hier dimanche que de violents combats ont opposé les combattants locaux aux rebelles du M23. Alors que les combats se concentraient autour de la localité de Bouiza, qui abrite des milliers de déplacés issus des familles d'éleveurs, il y aurait eu un débordement des rebelles du M23. Du coup, des tirs d'artillerie lourdes se sont approchés à moins de 6 km de Kichanga, entre le village Kizimba et Kae, dans le groupement de Bichusha. Si Kichanga est encore sous occupation des groupes armés locaux, la situation reste tendue dans la zone, précisent plusieurs sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Maïndombe à présent, la situation sécuritaire commence à s'améliorer dans le territoire de Kwamout en proie à l'insécurité causée par les assaillants de la milice Mobondo à la suite du conflit intercommunautaire Tekeyaka depuis plus d'une année. Le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions pour sécuriser cette partie du pays en équipant les éléments des forces de l'armée, notamment en mobilité. La société civile de ce territoire qui a fait ce constat se dit impressionnée et encourage le gouvernement à continuer dans ses sources avec cette allure pour que la paix soit totalement rétablie à Kwamout, ce qui va permettre à la population locale de se faire enrôler pour aller aux élections de décembre 2023. Martin Souta, président de cette structure, joint par Irène Beaumont.
La situation sécuritaire actuellement, ce qui est visible, c'est-à-dire nous avions senti que le gouvernement commence à entreprendre les dispositions pour mettre la sécurité partout, même dans la forêt. Ce que nous avions dit, c'est-à-dire commence d'abord à soutenir les militaires en position de l'opération. On voit qu'ils sont en train d'équiper les membres. C'est ce qui nous a vraiment impressionné de manière à encourager notre gouvernement et toutes les dispositions prises. Ils ont déjà lancé un ultimatum en demandant aux militaires Mobondo de libérer les forêts en attendant l'opération militaire. C'est-à-dire ils ont d'abord accordé mesure de grâce à tout paisible citoyen de quitter la forêt afin qu'ils puissent faire bien le travail. Nous encourageons le gouvernement de pouvoir continuer avec cette alliée de mettre en place les mesures sécuritaires pour que l'état de droit soit placé dans le territoire de Kwamoutou et que surtout pour les problèmes d'enrôlement que nous nous apprêtons.
Le ministre congolais de l'Agriculture encourage les acteurs de son secteur en RDC à dupliquer le modèle d'exploitation agricole tel que pratiqué au sein de la ferme privée agropastorale MKM Mike Kasenga Mulenga dans la commune urbano-rurale de Maluku. Lors de sa visite en fin de semaine dernière, José Mpanda s'est dit émerveillé de l'investissement d'un compatriote congolais qui a créé de l'emploi dans un secteur que soutient le chef de l'État dans sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. La ferme agropastorale MKM use d'une chaîne de transformation agricole et un système d'irrigation particulière que peuvent appliquer d'autres opérateurs du secteur afin de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays, souligne le ministre de l'Agriculture dans cet élément.
Je viens de voir cette ferme agricole, mais qui n'est pas seulement agricole, mais qui fait une chaîne de transformation. Et cette ferme rentre dans les projets du président de la République sur l'agenda des transformations agricoles. Que le président de la République voudrait qu'il y ait de la chaîne complète des transformations agricoles. J'ai vu le nombre de Congolais qui sont travailleurs ici, c'est à soutenir. Nous luttons contre le chômage. Mais également, ce qui m'a impressionné, et là, qui n'est pas chez les autres acteurs agricoles, même étrangers, c'est le grand système d'irrigation. Le système d'irrigation reste un système inédit en RDC. Nous le voyons ailleurs. Je ne l'ai pas encore expérimenté, même chez les expatriés, les étrangers qui ont investi dans le système agricole. Ici, je viens de voir le système d'irrigation que nous voyons ailleurs, au Brésil, en Italie, que j'ai vu en Israël. L'avantage du système d'irrigation, c'est qu'on peut planter quand on veut. On peut faire l'agriculture quand on veut. Et on peut récolter deux fois l'an. Ça veut dire qu'en utilisant la saison régulière, mais en utilisant aussi la saison qu'on veut planter. Alors quand on utilise le système d'irrigation que je venais de voir, ça nous permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce système, il faudrait qu'on puisse l'amener partout, en RDC.
En Ituri, une centaine d'abris des déplacés du site de Nyamusasi ont été emportés samedi par un vent violent accompagné des pluies dans la chefferie de Bahema Banyuagi dans le territoire de Djougou. Conséquence, des centaines de familles passent la nuit à la Belle Étoile. Selon la société civile, environ 5000 personnes hébergées dans ce site vivent dans des conditions très précaires depuis la suspension de l'aide humanitaire il y a plus de 6 mois. Ces sinistrés demandent au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État dans le territoire de Djougou pour leur permettre de retourner dans leur village d'origine. Isaac Remoyope.
Au moins 117 abris des déplacés d'ici de Nyamusasi, proche de Tchoumé, à environ 60 km aussi de Bounia, ont été emportés la nuit de samedi à dimanche par un vent violent qui a soufflé à la plaine du lac Albert. D'autres habitations qui étaient vétustes sont endommagées. Les victimes, composées essentiellement des enfants, ont passé la nuit à la Belle Étoile et exposées aux intempéries. D'autres sont coincés sous un hangar destiné à l'accueil des nouveaux déplacés. Outre les problèmes de logement, ces personnes déplacées, estimées à plus de 5000, n'ont pas de vivres. Selon la civiles locales, elles sont abandonnées à leur triste sort depuis la suspension de l'aide humanitaire il y a environ 6 mois. De nombreux enfants et des personnes de troisième âge qui ne résistaient pas face à ces conditions précaires sont malades. Ces déplacés lancent un appel au gouvernement de rétablir la paix dans leur village d'origine qui sont toujours occupés par les groupes armés. De leur côté, la société civile locale et les services de protection civile plaident pour une aide d'urgence en faveur de ces sinistrés pour la reconstruction de leurs abris. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, 4 sites de déplacés implantés dans la partie nord de la commune rurale de Oicha sont désormais desservis en eau potable. C'est un projet initié par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Plus de 600 ménages des déplacés installés dans ces sites auront désormais de l'eau potable après plus de 6 mois de calvaire. Le président des déplacés de ces sites qui salue l'accomplissement de ce projet d'adduction d'eau demande également au CICR d'utiliser les jeunes déplacés comme main d'œuvre locale dans ces différents projets pour leur survie. Jean-Pierre Moutouli qui subit est au micro de Marc Marofimbo.
Le projet de notre construction de l'eau a déjà commencé, ça a débuté il y a 2-3 jours, où c'était un besoin ressenti, très très ressenti encore. Vraiment, ce que la CICR est en train de faire pour nous, c'est une bonne des choses. Ça va, cette eau-là, ça va servir au moins plus de 3-4 sites qui restent dans notre entité. Bon, ce qui serait peut-être ajouté, ça sera, bon, on ne sait pas, puisque ce qu'on a quand même comme besoin, nous voulons d'abord l'eau, et après, on aura d'autres choses après. CICR, ça ne sera pas la fin pour eux de venir nous aider, de faire aide à nous. En attendant d'autres jours, nous voulons à ce que CICR puisse aussi nous prendre, de certains de nous, d'aller faire un travail ensemble avec eux.
Parlons à présent de cet acte d'incivisme déploré de ce vendant à Chicapa. La société civile alerte sur le vol des panneaux solaires, des lampadaires et quelques ampoules installées en plein centre entre le pont Chicapa et la commune de Dibumba 2. Le coordinateur du consortium des organisations de la société civile locale déplore cette situation qui plonge cet axe dans l'obscurité alors que la population déplore l'insécurité sur la ville. Gilbert Ngoy souligne que si cette situation est négligée, ces voleurs risquent de vider tous les outils d'éclairage public installés sur la nationale numéro 1. Il l'a dit à François Kadima.
Les lampadaires dont je parle sont ceux placés sur la nationale numéro 1, particulièrement sur l'axe Pont-Chicapa vers la maison communale de Dibumba 1 et celle de Dibumba 2. Jusqu'à ce jour, malgré l'implication des organisations de la société civile, les bourgmestres de la commune de Dibumba 2 ne s'est contenté que de se plaindre et aucune enquête n'est encore ouverte par rapport à cette situation. Ce que la population est en train de déplorer, c'est le fait que si ces saboteurs, si ces bandits ne sont pas recherchés, connus et sanctionnés, le reste des lampadaires vont connaître le même sort et la nationale numéro 1, sa partie de la ville de Chicapa bien entendu, restera dans les noirs, ce qui va aggraver l'insécurité.
Dans la province de la Tchopo à présent, la zone de santé de Banalia sera bientôt dotée des sources d'eau potable. La ministre chargée de l'Environnement a remis le week-end dernier un montant de 3000 dollars américains au bureau central de cette entité sanitaire pour cette fin. Le médecin chef des zones de santé et la société civile saluent ce geste qu'il qualifie de salutaire pour les populations locales. Le point avec Jacques Moukonkole.
Jusque-là, la population de Banalia consommait de l'eau impropre provenant des sources non aménagées. Grâce à cette réaction positive de la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, à l'alerte du médecin chef des zones de santé de Banalia, Dr. Patrick Mbenga, 4 sources d'eau seront aménagées. Les travaux consisteront en la fouille, au drainage, à la maçonnerie, ainsi qu'au captage de l'eau. En conséquence, les maladies hydriques seront réduites, surtout chez les enfants.
Ça va sûrement réduire l'incidence des diarrhées et la réduction de l'incidence des diarrhées va agir directement sur la mortalité. Nos enfants ne peuvent pas mourir comme ça en étant jeunes.
Satisfaite de cette intervention, le président de la société civile s'engage à impliquer la population locale pour un aboutissement heureux de ce projet. Didier Maïndo.
De notre part, nous allons sensibiliser la communauté. La communauté va contribuer même au niveau local. Ils donnent le sable, les moellons.
Selon le médecin chef des zones de santé de Banalia, 30 à 35% d'enfants de moins de 5 ans qui meurent dans les centres de santé souffrent de diarrhée avec déshydratation. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des attaques à la bombe contre des églises par des djihadistes de la milice Force démocratique alliée ADF ont été déjouées dimanche en Ouganda, à environ 50 km à l'ouest de la capitale Kampala, affirmait le président Yoweri Museveni. Deux engins explosifs que des ADF rebelles ayant prêté allégeance au groupe État islamique prévoyaient de poser dans les églises de Kibibi ont été signalés à la police et désamorcés, a écrit sur X le chef de l'État ougandais. Et puis, plusieurs personnes, y compris des proches victimes enlevées par le Hamas, se sont rassemblées lundi à Kiria, à Tel Aviv, qui abrite le quartier général militaire, pour exiger du gouvernement la libération de leurs proches. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré dimanche soir pour la première fois les familles des Israéliens disparus ou pris en otage. L'armée israélienne a affirmé lundi que 199 personnes avaient été capturées par le mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.
L'invité.
Notre invité vient du Sud Kivu à Bukavu. Docteur Claude Baizire nous parle de la maladie de variole de singe ou monkeypox qui fait son apparition dans la province du Sud Kivu. 6 cas confirmés jusque le week-end dernier et 100 des cas suivis. Docteur Claude Baizire est chargé des communications à la division provinciale de la santé du Sud Kivu. Il répond aux questions d'Emmanuel Elamejo Kabedi.
Docteur Claude Baizire, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous apprenons l'apparition d'une nouvelle maladie dans la province du Sud Kivu. Est-ce que c'est vrai? On parle de monkeypox. Est-ce confirmé?
Oui, c'est vrai. C'est confirmé. Il y a cette maladie. Parce que il y a un cas qui est déjà confirmé par laboratoire. Nous avons d'autres cas qui ne sont pas confirmés sur labo. Mais les signes, en tout cas cliniques, montre que, en tout cas, probablement, ce sont des cas de monkeypox. Et ça fait 4 cas jusqu'à hier de monkeypox, dont un cas est confirmé. Et tous ces cas viennent de la zone de santé de Kamituga.
C'est quoi le monkeypox, docteur?
Oh, le monkeypox, c'est d'abord le monkey, c'est le mot anglais, c'est singe. Voilà. Donc, le pox, c'est comme variole. Donc, en français, d'ailleurs, on appelle ça variole des singes. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis très longtemps. Seulement, des cas de monkeypox ne s'est notifié pas au Sud Kivu. Ce n'est pas notifié ici chez nous. Mais, comme en Équateur, c'est une ancienne maladie qui est connue là-bas. Alors, le monkeypox, en soi, comme je l'ai dit, c'est une maladie qui, c'est une zoonose. Donc, une maladie qu'on contracte lorsqu'on a des contacts avec un animal malade et que l'homme aussi tombe malade. Et les signes, parmi les signes, et on peut avoir d'abord la fièvre, et après la fièvre, on peut avoir des taches, des démangeaisons d'abord, donc la peau commence à chatouiller, et on peut avoir des taches rougeâtres, et beaucoup plus au niveau de la face, paume des mains, au niveau des plantes des pieds, et ces taches peuvent devenir des vésicules, donc des petits boutons, des boutons, comme la variole, pour les gens qui connaissent, qui ont eu à vivre la période de la variole, tes boutons vont attaquer toute la face et il y aura du liquide là-dedans. Et lorsqu'il y a une surinfection d'autres bactéries, et le liquide va devenir comme du pus. Et on va voir des boutons avec du pus dedans au niveau de la face, au niveau de la paume des mains surtout, mais au niveau de la main, au niveau de plan des pieds, avant de voir des petits boutons par-ci, par-là.
On peut la soigner?
La maladie en soi, ça se soigne, mais c'est pas n'importe où parce que c'est une maladie très contagieuse et peut tuer par complication. Et pour le moment, dans la province du Sud Kivu, on est en train déjà de prévoir, de faire des dispositifs pour avoir un centre de traitement des monkeypox, vu qu'il y a déjà ce cas-là confirmé. Et l'endroit où on aura à soigner des cas de monkeypox pour le Sud Kivu.
Que faire, docteur, pour éviter la propagation de cette maladie?
Pour éviter la maladie, d'abord, nous, on a des responsabilités, nous, en tant que santé. Nous sommes en train de sensibiliser d'abord la population par rapport aux signes. Et lorsqu'on a des signes suspects, d'abord, et c'est mieux d'aller directement à l'hôpital. Alors, lorsqu'on a des cas comme ça à l'hôpital, on détecte, ou à la communauté, on détecte des cas, nous les mettons en quarantaine. Ou carrément, on fait des isolements des malades. On les isole, on prélève des échantillons, on envoie au laboratoire, donc à l'INRB, on fait des examens rapidement. Lorsque le résultat revient, si le cas est positif, on les met dans le centre de traitement. Donc, la grande chose, c'est de chercher, détecter les cas contacts, tous les cas contacts, tous les cas suspects, et on les isole. Comme les autres maladies virales graves, on les isole et puis on voit comment on peut prendre en charge les malades.
Et ces cas contacts, comment, s'ils ne sont pas encore détectés, comment ils peuvent se comporter dans la communauté?
Dans la communauté, c'est bon, d'abord les contacts ne sont pas des malades. Il y a une probabilité de faire la maladie. Ce qu'on leur conseille, c'est de s'isoler d'abord, d'éviter d'être en contact avec d'autres personnes à tout moment, parce qu'on ne sait pas. Et alors, le reste de la communauté, c'est observer les règles d'hygiène habituelles. Le lavage correct de mains, décidons d'éviter des salitations, comme les autres maladies. Mais pour le moment, on doit éviter d'abord des paniques pour éviter de grandes contaminations suite à cette maladie.
Merci, docteur.
Merci beaucoup.